La comtesse Geneviève par Tola Dorian. Des tilleuls aux feuilles claires, des hêtres tordus et rugueux, enchevêtrant leurs colossales branches et faisant saillir hors du sol moussu leurs racines vipérines. Des cyprès, dont la noire raideur accentue les lancements frêles des peupliers qui se ploient, frissonnants et fébriles, aux quatre vents du ciel. Quelques chênes centenaires, presque chauves, s'effondrant sous leur vétusté difforme. Des charmilles ombreuses et des haies de houx, véritables murs massifs de verdure, enserrant ce fouillis de végétation luxuriante, sur un espace de plusieurs hectares, une enceinte à moitié détruite, avec sa grille de fer forgé, que la rouille rendait presque friable, arrachée à demi de ses gonds. Tel était le parc inculte et désert, abandonné par les hommes aux lois réversibles de la nature, qui recommençait en lui l'œuvre des forêts primordiales. Le terrain descendait en pente jusqu'au bord de la Vistule et une large route sablée le coupait dans toute sa longueur. Un château dont la grande porte cintrée et basse se dégradait sous les intempéries des diverses saisons et dont les quatre tourelles, écrasées sous des lierres monstrueux, dominaient de profonds fossés, croulait en ruine sur sa hauteur. De ses fenêtres, presque toutes sans vitres, s'ouvrait un vaste et verdoyant horizon où scintillait comme le dos d'une alose la rapide rivière entre ses joncs verts tendres penchés sur les plates fleurs d'eau qui dansaient au roulis des petites vagues ridées. Ce parc et ce château appartenaient au pan Misienski, dernier descendant d'une des plus vieilles familles nobilières de la région de Cracovie, cédé à l'Autriche lors du partage de la Pologne entre Catherine, Frédéric et Marie-Thérèse. Le délabrement du domaine achevait la ruine des propriétaires. D'année en année, de chute en chute, de mort en mort, la race s'était réduite, un seul représentant, veuf et âgé, n'ayant qu'une fille, la panne à Geneviève, si blonde qu'elle portait une lueur sur son front, si frêle que seule une tige de maïs osait rivaliser avec sa grâce pliante, qui marchait comme glisse une vapeur matinale sur l'herbe ensoleillée, dont la voix était si perlée que le merle, familier des vergers, en vain s'épuisait à l'imiter, et dont les yeux avaient le regard d'un enfant qui sourit sous les larmes. Son visage diaphane et atténué par une vie faite de privation et de solitude portait sur ses traits réguliers l'expression de ces filles saintes que sur les fonds d'or peignaient pour les missels les vieux maîtres avec la patience d'une foi profonde. Les mouvements de ses membres fluets, aux attaches minces, étaient une harmonie douce. Elle passait sous les arbres séculaires comme une vision pré-raphaélique. Les plis de sa robe en laine blanche moulaient chastement ses formes pures et tombaient calmes et longs. Son père, accablé de vieillesse et d'infirmité, ne quittait jamais le château que seul habitait avec eux une vieille servante. La misère était si réelle dans cette demeure princière, dont tous les appartements étaient presque vides de meubles, que Geneviève rarement avait mangé d'autre nourriture que le pain de seigle fabriqué par Ercilia ou les fruits et les légumes du vaste jardin potager. Elle ne sortait que pour aller les dimanches et fêtes au Costel assister aux services sacrés. Pendant l'hiver, elle se renfermait durant des journées entières, dans sa chambre tendue d'étoffe usée et fanée, telle que l'avait laissée sa mère, la comtesse Alinor. Là, près du lit monumental en bois d'ébène, dans un oratoire qu'éclairait un demi-jour mystérieux, un grand Christ d'ivoire jaune étalait sa maigreur tragique. Le soir, elle filait au feu de l'immense foyer de la cuisine où lisait dans quelques volumes dépareillés. Les années roulaient, les saisons succédaient aux saisons, Geneviève avait 20 ans. C'était au commencement de ce siècle. La Pologne se soulevait, se débattait sous le joug qui l'écrasait. Les derniers grands manias saignaient leurs derniers ducats et armés jusqu'aux enfants de 14 ans. La révolte partout montrait les dents. Tantôt battus, tantôt vainqueurs, les patriotes luttaient comme la vie lutte avec la mort. Le printemps venait, mais s'embaumait au parfum des lys sauvages qui, pareils à des coupes de marbre transparents, constellent les solitudes de ces contrées fertiles. Geneviève, assise sur les talus des fossés, près du pont-levis délabré, filait, tournant dans ses doigts recourbés la quenouille d'ébène, et la sinuosité de ses lignes juvéniles tranchait, blanches, sur le bleu pâle de l'horizon. ses yeux baissés, ses longs cils fauves et ses lèvres mi-ouvertes, avec l'extatique tendresse d'une madone en prière. La rosée s'allumait sous les rayons nouveaux du soleil. Des buées nacrées montaient autour d'elle. Le sol semblait encenser sa gravité délicieuse. Soudain, un cliquetis d'armes et de chevaux sur la grande route de Cracovie que longeait de hautes haies fleuries éclata tout près d'elle et lui fit lever les yeux. Une troupe de cavaliers s'approchait. Leur chef était un homme de 50 ans environ, vêtu du joupan national, en drap fin brodé d'or, serré par une riche ceinture à laquelle pendait le sabre des Polonais, recourbé comme le cimetière oriental. Il arrêta son cheval, un arabe superbe, devant la panna. Fixant ses yeux clairs sur elle en se découvrant, il secoua ses cheveux gris de fer, touffus et durs comme la crinière d'un vieux lion, et dit avec courtoisie « Noble demoiselle, nous te demandons l'hospitalité, mais nommez-moi pour quelques jours. Nous devons attendre ici les ordres de l'Hetman. Le toit qui abrite les patriotes devient sacré, le lit où ils dormiront leur dernier sommeil, peut-être, est béni. » Geneviève se leva et d'une voix d'enfant répondit en inclinant son front « Voïvoda, entrez dans la cour, je vais prévenir mon père. » « Par le sang du Christ, » dit le voïvoda, ébloui et les yeux étincelants, « tu es une créature choisie. Ta beauté faite de lait et de sang réjouit l'âme. Bah, dis à ton père que des soldats de la Pologne attendent sur son seuil. » La jeune fille disparut. Les hommes, un à un, défilèrent par la grille ouverte et entrèrent dans la cour envahie d'orties et d'herbes. Ils attendaient, silencieux, immobiles. Quelques instants après, elle reparut, rose et digne dans sa courtoise timidité. « Seigneur Voïvoda, mon père vous fait excuse et vous demande, qu'étant infirme, il ne peut venir saluer ses hôtes, mais que notre demeure est la vôtre. Honorez-la de votre longue présence. Grâce à nos ennemis maudits, nous n'avons que du pain et des œufs à mettre à vos pieds. »« Pana, » répondit le chef, descendant de cheval, « nous remercions ton père. Heureux le foyer qui te possède et le toit qui te protège. Montre-nous où remiser les chevaux. » La troupe séjournait depuis 3 jours au château. Les soldats s'étaient procuré des vivres dans les villages avoisinants. Le voïvoda, durant les longues journées et une partie des nuits, arpentait les allées du parc, les mains derrière le dos, l'œil fixe, tantôt d'un pas rapide, tantôt s'arrêtant pour écouter si le courrier de l'Hetman n'arrivait pas au triple galop. Le pan Misienski ne se montrait pas. Geneviève n'avait rien changé à ses habitudes. Elle passait sans avoir l'air de voir ses hôtes, mais s'éloignait plus profondément dans les massifs de buis et de seringas. Les soldats la considéraient avec une terreur respectueuse. Son calme et sa beauté n'avaient rien de terrestre. Le voïvoda, la rencontrant, arrêtait sa marche saccadée. Son regard sauvage et dur prenait la douceur de la jeune et sereine image qu'il reflétait. Le 3e jour touchait à sa fin. Le pan Misienski, toujours cloué par les douleurs sur son fauteuil près de la croisée, dans ce qui fut autrefois la bibliothèque, contemplait tristement la masse verdoyante des arbres, la rivière bleuissant au fond du parc et l'horizon, où des collines vaporeuses bornaient la vue de leurs profils vagues. Soudain, un triple coup retentit à la porte, et sans attendre une réponse, le voïvoda entra. Il était pâle, ses cheveux épais, rejetés en arrière, lui donnaient un aspect farouche. Son long sabre battait ses talons. S'approchant de la croisée, sans hésiter, il s'appuya de la main sur le rebord et regarda le pan longuement et en silence. Celui-ci sentait la colère le gagner et le rouge monter à ses joues ridées. Le voïvoda s'aperçut de ce trouble et dit d'une voix émue et sobre « Le pan va sans doute s'étonner de la nature de ma requête. Qu'il réfléchisse, je l'en supplie, qu'il a devant lui un homme dont les heures sont peut-être comptées, qui demain sera probablement loin d'ici, s'il n'est tué dans quelque embuscade ou pris et fusillé sur la grande route. Un homme qui est un des derniers défenseurs de la patrie outragée, un vengeur de ses désastres, un ennemi de ceux qui ont réduit des familles nobles, comme celle de mon hôte, à la misère et à l'impuissance. Donc, ayant quelque bien et renom, il vient prier le pan de lui donner sa fille en mariage à seule fin de pouvoir présentement la protéger en la sauvant de l'obscurité triste où dépérissent sa jeunesse et sa beauté. À question simple, simple réponse, oui ou non. Ma femme aura une dot à faire pâlir d'envie les plus orgueilleuses filles des manias. Ma veuve aura un douaire qui satisfera aux droits de sa race et à la noblesse de ses alliances. Le pan est surpris. Telle est ma façon d'agir. Je n'en connais pas d'autre. Si la réponse est oui, demain à l'aurore, le mariage. Au Costel, tout sera prêt. Luxens n'a point de refus pour une bourse suffisamment lourde. Dispense, dot, douaire, formalité, rien ne manquera. Le vieux pan écoutait, les sourcils froncés, ce discours prononcé d'un accent fier et ferme par cet homme dont la rudesse sauvage avait l'attrait d'une étrange séduction. Le voïvoda muet s'immobilisait dans une attente presque majestueuse. Le silence se prolongeait. Un oiseau vint se poser sur une des branches du tilleul ombrageant la fenêtre, et ses trilles éclatèrent comme un rappel. Le voïvoda involontairement fit frémir ses éperons. Alors l'infirme, sans hâte, levant les yeux, dit avec une intonation respectueuse mais hésitante « Je rends grâce au voïvoda Bara de l'honneur qu'il fait à ma maison, qu'il pardonne à mon agitation. Il m'est pénible de ne point lui rendre mes devoirs, étant son hôte et son égal. Geneviève est maîtresse de son sort, elle est jeune pourtant. « Les anges n'ont pas d'âge, » répondit le voïvoda. « Que son père commande, la panna obéira. Je le sais, ayant lu sur son visage les traces de toutes les vertus. Je la respecterai jusqu'à mon retour autant que la sainte dont elle porte le nom. » Le maître du château courba le front. Mille amères pensées passèrent dans son esprit. D'abord la poignante sensation de perdre sa fille. Ensuite l'humiliation de l'accorder à une demande qui, bien que formulée avec tant de chevalerie, n'en était pas moins un bienfait. Enfin, il se leva péniblement, tendant sa main tremblante au voïvoda qui la saisit d'une brusque étreinte, il répondit d'une voix sourde « J'accepte la proposition honorable du voïvoda. J'engage ma parole si, après avoir parlé à Geneviève, elle ne s'oppose pas à l'offre courtoise de mon hôte. » « Il suffit, » répliqua le soldat, et se dressant soudain de toute sa hauteur, il salua gravement le pan, puis, tordant sa moustache, il ajouta « Je vais prévenir la panna que son père la demande. » Il disparut. Le vieillard, pensif, écouta longtemps le bruit diminuant de ses pas sonores. Geneviève, passive, ne dit mot quand son père lui ordonna le lendemain à l'aube de se rendre au Costel pour y être marié au voïvoda. Était-ce une crainte ou bien une révolte? Mais son visage se rosa légèrement et un frisson nerveux plissa ses fins sourcils. Cependant, habitué à une obéissance inerte et maintenue dans le respect absolu de la volonté paternelle par les exhortations constantes d'Uxens, elle se soumit et, après avoir baisé la main froide du pan, sortit silencieusement. L'aube blanchit. Le soleil se lève sous un dais clair et allume les rosées étincelantes, les fleurs, les herbes et les arbres dans le gris perlé du matin. Les soldats attendent, rangés au fond de la grande cour d'honneur. Le bruit de leurs armes et de leurs chevaux et les couleurs violentes de leurs habits l'emplissent de vie et de lumière. Une vieille britchka attelée de deux maigres et mélancoliques haridelles stationne devant les marches du perron. L'ordonnance du voïvoda, le vieux Rouska, tient par la bride l'arabe qui hennit son appel de clairon, dresse et couche ses petites oreilles recourbées, si minces que le jour haut se voit à travers. Son grand œil brun, ardent et doux comme celui d'une femme, semble chercher la présence du maître bien-aimé. Ses crins fauves, soyeux et ondés, se soulèvent au souffle du matin. La voïvoda paraît, vêtue comme à l'ordinaire, mais le visage rayonnant, ses éperons sonnant une marche triomphale, il tord sa longue moustache grisonnante et, tête nue, offre le poing à la panne à Geneviève, dont l'aube pâlit encore les pâleurs. Dans son corsage de laine, elle a mis un lis éblouissant et couronné de quelques fleurs virginales ses cheveux vaporeux. À l'ombre de ses cils d'or se voit le regard rêveusement alangui où dorme, latente encore, la souveraineté irrésistible de la patricienne affinée et la grâce de la femme future. Sa tête, petite, a le port d'une gazelle sous son diadème de tresses blondes. C'est une fleur royale que cette enfant blanche, parée de sa robe de laine grossière et de sa majestueuse beauté. Le pan Misienski les suit. Le voïvoda les fait monter dans la britchka et bondit sur son cheval, qui se cabre, bat l'air de ses fers retentissants et arque le cou en accueillant avec joie le joug de la main ferme et douce qu'il connaît si bien. La britchka part en geignant sur ses roues mal graissées et ses ressorts de bois. Le voïvoda la suit sur son cheval qui semble porter un César, et la petite troupe suit, claire et joyeuse, au soleil levant. La cloche du Kostel sonne à toute volée. Les oiseaux dans les haies et sous les branchages carillonnent leur concert matinal pour fêter les noces de leur panna. Dans les villages que le cortège traverse, les jeunes filles aux grands yeux larges ouverts sortent de leur hutte émerveillées de cette pompe. Geneviève leur sourit vaguement sous ses lourdes paupières. Ils s'approchent de l'enceinte où sommeillent les morts autour de la vieille église. Un jeune homme leur ouvre la grille dans la cour de l'église et la britchka entre avec un bruit de vieille ferraille. Au même moment, le regard de l'inconnu rencontre celui de la panna. Les lèvres fières de la fiancée tressaillent, une faible lueur colore sa face. Lui pousse un cri rauque, sourd, que le voïvoda dont le cheval bondit n'entend pas. Il blêmit et, dans son œil sombre, sur sa figure qui se contracte, une intense angoisse, une fureur concentrée s'allume soudainement. La britchka continue son chemin. Elle ressemble maintenant, dans sa lenteur et sa vétusté hideuse, à un corbillard. La cloche fêlée aussi teinte comme pour des funérailles. Le voïvoda saute à bas du cheval. Geneviève et son père descendent. Tous trois montent les marches dégradées de l'antique basilique et entrent dans la nef glacée et sombre. Le Xens vient à leur rencontre, vêtu de ses grands habits, et la cérémonie commence. Les soldats mettent pied à terre et, dans un religieux silence, écoute le murmure des prières que le Xens et son diacre entonnent à mi-voix et qui semble, entendu du dehors, comme le susurrement d'une ruche d'abeilles. Rouska, les sourcils noirs froncés sur son regard taciturne, mordant sa moustache, tient le cheval de voïvoda d'une main et de l'autre s'appuie sur son sabre de cavalerie. Le jeune homme qui avait ouvert la grille resterait démuet dans une attitude atterrée. Ses yeux étincelants suivent le couple disparaissant sous l'arche du portail. Tout à coup, secoué par une émotion violente, il se jette vers Rouska en lui criant « Quel est cet homme ?» Le mouvement est si brusque que l'arabe prend peur, se cabre tout droit, ses yeux fous s'élargissent, enflammés et verts. Il bondit, retombe et, glissant sur les dalles que des siècles d'usure ont polies comme une glace, s'effondre avec un craquement sourd. Un jet de sang rougit sur les pierres blanches. La noble tête, pantelante, s'épuise en efforts pour se relever, l'œil hagard, désespéré. Son cœur courageux palpite sous ses flancs qui frissonnent. La jambe, brisée au genou, pend inerte. C'en est fait. Le héros de 100 combats, le vaillant, l'infatigable ami du grand voïvoda de la Pologne, est perdu. Rouska, blanc, rigide, hébété, regarde l'étalon subitement jeté, abattu à ses pieds. Il voit sa robe de satin doré se ternir et frémir dans des convulsions terribles. Un éclair n'eût pas été plus prompt que cette chute. L'homme, cause involontaire du sinistre, saisi d'épouvante et de douleur, s'enfuit sans avoir le courage de prononcer une parole. Au même instant, la courte cérémonie se termine et le voïvoda, donnant le bras à l'épousée, paraît sur la grande porte sculptée. Leurs figures se découpent claires sur le fond noir de la nef. Le Xens et le Pan les suivent. Le voïvoda, le regard radieux fixé sur Geneviève, ne voit qu'elle. Il met un léger baiser, comme une prise de possession, sur le front de sa femme, puis, se tournant vers Rouska, il aperçoit son cheval à terre saignant. Il bondit sur l'ordonnance et le saisit au collet. « Misérable, mon arabe, qu'est-il arrivé ?»« Grâce, » murmure Rouska, sans lever les yeux. « Canaille !» hurle le chef. « Holà, vous autres ! 40 coups de bâton sur le ventre à cette crapule et que demain, avant midi, sa carcasse soit jetée à la rivière !» Il s'approche alors de son cheval, qui, les yeux mornes, les naseaux rouges et élargis, semble à présent savoir que sa force et sa vie sont passées. Il ne lutte plus, il retombe stoïque et passif. Le chef pose une main sur les yeux de Selam. Pour un moment, il cache son front dans la crinière ondoyante et soyeuse, puis, tirant de sa ceinture un couteau large et court, d'un seul coup frappé entre les oreilles, achève l'agonie de son compagnon. L'arabe étend ses membres, frissonne, puis reste immobile. Le voïvoda, blême, se détourne et monte dans la britchka. « Marche » crie-t-il au cocher sur le siège. Mais Geneviève, debout, dressée dans la voiture, retient son bras. Suppliante, belle d'une beauté nouvelle et grave, elle murmure « Seigneur, grâce, pardonnez !»« Pardonnez à cet assassin ? Jamais !» s'écrie le voïvoda en cherchant à faire asseoir Geneviève. « Seigneur, dit-elle en levant sur lui un regard sombre, refusez-vous à votre femme sa première requête ?» Le voïvoda garde le silence, les muscles de sa face tremblent, sa main tord la poignée de son sabre. « Panavara, répond-il enfin, je suis votre esclave. Relâchez-le » s'écrie-t-il d'une voix tonnante. Les soldats joyeux obéissent, le voïvoda s'élance aux côtés de Geneviève, blanc comme un linge, sans jeter un regard en arrière, et la britchka s'éloigne. Rouska longtemps la suit des yeux. Arrivé dans la cour du château, le nouveau marié descendit le premier, et prenant Geneviève dans ses bras comme il le fait d'un enfant, monta gravement les marches du perron et la porta jusque dans l'appartement de sa mère, qui devait être leur chambre nuptiale. Là, il la laissa doucement glisser sur le sol et, lui prenant les mains, la regarda longtemps avec un mélange de douleur et d'amour, puis, se tournant vers le pan qui les avait suivis péniblement, s'appuyant sur ses béquilles, il lui dit d'une voix saccadée « Je vous confie ma femme. Demain vous recevrez son douaire avec les papiers constatant notre mariage et la fortune que je lui laisse pour que la Pologne apprenne à rendre hommage à sa plus belle Panna. Adieu. » Brusquement, il sortit. Son sabre battait les marches retentissantes à mesure qu'il descendait. La face sévère et le front sombre, il monta sur un cheval de sa troupe que lui présentait Rouska et, sans même lui jeter un regard, partit au galop. Six longs mois s'étaient écoulés. Le voïvoda marchait de victoire en victoire. La Pologne tout entière acclamait son nom. De temps en temps, il envoyait un courrier au château de Mizienski, où Geneviève, entourée de luxe et d'un nombre personnel de domestiques, continuait pourtant l'existence cloîtrée, calme et rêveuse de sa vie de jeune fille. Un soir, le voïvoda s'en revenait à sa tente, harassée et morose. Un juif en haillons, jaune et les yeux noirs étincelants sous les cheveux roux, frisé en longues boucles sur ses joues, puis en lacre, tabac et l'ail, mit la main sur son étrier. Le chef allait de sa cravache couper le visage à l'insolent, lorsque celui-ci, très bas, mais accentuant, en sifflant ses paroles, lui dit une phrase qu'il entendit seul, mais qu'il arrêta net. « Tu sais ce qui t'attend si tu mens, chien de juif » murmura-t-il entre ses dents. « La mort, seigneur Pan, » répondit l'homme roux en se courbant jusqu'au sol. La torture, sang du Christ, plus horrible que mille morts. Seigneur Pan, et si je dis vrai? 10 000 ducats et ma malédiction. Soldat, gardez-le à vue. Votre vie me répond de la sienne. La lune limpide et large éclairait le château et le parc des Mizienski, lorsque le voïvoda et Rouska, à la faveur des ombres noires comme des trous, projetées par les arbres et les haies, attachèrent leurs chevaux à un chêne et se firent ouvrir la porte par un des domestiques nouveaux que Vara connaissait personnellement. Traversant à pas sourds les corridors et les vastes salles, ils parvinrent à la porte de la chambre de Geneviève qu'ils ouvrirent. Là, rien n'était changé, ni les vieux meubles, ni les tentures fanées, ni le Christ squelette sur la planche de velours noir. La chambre était vide. L'ordonnance vit le visage de son chef, il frémit. Cette face avait le rictus d'une bête fauve. Vara, d'un geste, lui signifia de le suivre. Ils sortirent dans le parc et suivirent une grande allée qui se terminait par une énorme ogive s'ouvrant sur tout un pan de ciel où nageait majestueusement, au centre d'un halo vaporeux, la lune en son plein. Au milieu d'une pente gazonnée, gazouillait une spirale étincelante. Ses gouttes jaillissaient en gerbes de diamants liquides. Arrosé par elle, un satyre sans bras dressait son beau torse sous les fulgurances glissant sur sa blancheur, et adossé au socle de la statue, Geneviève, blanche comme elle, laissait ses cheveux dérouler et pendre autour d'elle une sorte de nimbe lumineux. Un homme était debout devant elle, il lui disait tout bas. Vara et son soldat ne pouvaient l'entendre. « Adieu, pana Geneviève. Vous qui tant d'années fûtes mon unique pensée, vous de qui je n'osais jamais implorer un sourire, mendier un regard. Adieu, pana Vara, qui vous êtes vendue pour un peu d'or et qui daignez me parler pour la première et la dernière fois. Je vous bénis, vous qui m'envoyez combattre et mourir pour la Pologne, puisque je ne puis vivre pour vous. » Il se baisse et prend la robe blanche dont il porte un pli à ses lèvres. Le voïvoda épaule sa carabine. « Es-tu prêt ? » dit-il à l'ordonnance. « Vise bien. À toi l'homme, à moi la femme. Je tire après ton coup. »« Seigneur Pan, » murmure Ruska, « le vent de la nuit fait pleurer mes yeux, ils sont troubles. »« Chien maudit !» gronde le chef. « Tue, sinon tu es mort. » « Seigneur voïvoda, ma carabine est mouillée des rosées du soir. »« C'est ton sang qui va l'arroser, » grince le voïvoda, qui voit le jeune homme à genoux devant Geneviève. « Oh, maître !» grelotte le soldat. « Le vent du nord souffle et fait trembler mes mains. »« Mère de Dieu !» râle le pan. « Tu hésites ! Feu !» Au même instant éclate un coup de feu. Le voïvoda, mort, roule aux pieds de Ruska. C'est ainsi que s'achève la comtesse Geneviève de Tola d'Orient.